17h27, Pierre-Yves est là. Salut, PY.
Salut.
OK, tu veux me parler de Stingray.
Oui, en fait, je veux te parler du concept d'actionnaire, de pandémie, de subvention et de dividendes. C'est-à-dire, on a vu pendant les dernières années les compagnies utiliser le leverage, hein, l'endettement, faire ce qu'on appelle du leverage buyout, c'est-à-dire à faire des acquisitions en endettant certaines entreprises ou en allant chercher du capital, ou peu importe, on s'occupe du cash, puis on se dit, on va maximiser la valeur pour l'actionnaire, à tous les niveaux. Et il y a des entreprises qui disent pendant la pandémie, mais écoute, on rentre dans les calculs du gouvernement, là, on rentre dans la capacité d'aller chercher une subvention, donc on va la prendre, et on dit à nos employés, écoutez, on a eu une baisse, donc Stingray, c'est un exemple, on dit à nos employés, vous allez baisser votre salaire de 10 à 20% dépendant de votre revenu. Et puis les hauts dirigeants vont faire leur part aussi parce qu'ils vont diminuer significativement leur salaire. Mais évidemment, une fois que tu as l'accès à la subvention salariale, ils ont ramené les salaires. Par contre, pendant la période où on a pris la décision et le moment où on a eu la subvention, même si la subvention est rétroactive, on dit aux employés, ben écoute, tough luck, tu sais. Mais nos actionnaires, eux, ont quand même leur dividende de 7,5 cents l'action. Pourquoi? Parce que l'actionnaire, puis c'est un choix éditorial, je viens d'en parler avec les dirigeants de Stingray, l'actionnaire est vu comme une dette. L'actionnaire est vu comme un capital à rémunérer, comme un loyer, comme d'autres charges. Alors que l'employé, c'est un partenaire, lui, qui doit assumer le risque. Et c'est un peu drôle. Puis là, je veux pas frapper Stingray, je veux parler de l'ensemble des entreprises qui vont aller chercher l'argent qu'ils peuvent aller chercher du gouvernement parce qu'ils y ont droit, donc le gouvernement signe des chèques. On y va? Mais d'un autre côté, on dit, ah non, les coupes d'employés n'ont pas servi à payer le dividende, c'est vrai. Mais par contre, rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme, tout est des vases communicants. Tes employés ont perdu du salaire cette année, vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Tes actionnaires ont-ils été payés un dividende qui est discrétionnaire, c'est-à-dire qui n'est pas obligé d'être versé? Oui. Donc, tu es en train de me dire que le salaire des employés, qui est une promesse salariale, est dans un ordre de priorité inférieur à l'actionnaire. Et c'est sûr que l'actionnaire, c'est la Caisse des dépôts et placements du Québec, que c'est nos régimes de retraite, puis que ce sont aussi les travailleurs de Stingray et de d'autres entreprises, ou peut-être moi-même ou toi-même, qui sont actionnaires. Mais il en demeure pas moins que d'un point de vue éthique, d'un point de vue réflexion collective, d'un point de vue société. C'est fou quand même comment, quand on donne de l'argent à prendre de l'État, on le prend automatiquement, mais quand on a à en donner à l'État, on fait tout pour pas y en donner, et qu'en même temps, quand c'est le temps de dire aux employés que c'est des partenaires, on le dit, mais quand c'est temps de couper, c'est les premiers à payer, c'est...
Bien, Pierre-Yves, c'est un peu sur le même principe que quand une entreprise fait faillite, on l'a vu avec Nortel et autres, là...
Le déficit actuariel du régime de retraite,
ben, les employés... je veux dire, tout le monde se fait payer avant les pensionnés, t'sais.
Sauf l'actionnaire ordinaire, techniquement, qui ramasse les miettes, mais il a pris un risque en conséquence. Alors moi, c'est peut-être ça, puis là, je frappe pas sur Stingray ou Scott, n'importe quel
autre exemple. Là, oui.
Je prends cet exemple-là parce qu'ils viennent de déclarer leur dividende vendredi, il y a 5 jours, là, le 20 mai. Donc, tu déclares ton dividende ou tu l'annonces, puis en même temps, ça démontre à quel point, dans le fond, l'entreprise en général pense au bien-être de l'actionnaire. Et donc, comme société, mais même comme particulier, faut se dire qu'une entreprise va toujours nous traiter comme un employé qui fournit des services et qui est là simplement pour ça. Alors, quand c'est le temps de penser à nous comme employés, et dans un marché de plein emploi comme on avait avant, les gens en informatique peuvent aller n'importe où. Et tu vois, dès qu'il y a un peu de pandémie, quand c'est le temps de réduire les salaires, ben on y va un peu. Là, évidemment, on a ramené les salaires au plein niveau. Mais quand même, il y a cette réflexion de société qui dit, c'est l'employé qui paye.
Ce que tu veux dire, c'est que notre employeur, c'est pas notre belle grande famille, comme on nous le dit dans les communications officielles.
Moi, Patrick, je t'appelle boss, mais le jour où tu me mets dehors, je vais t'appeler Monsieur Lagacé, puis tu seras le chroniqueur vedette de la presse. Tu comprends? Donc, c'est ça, la vie. La vie est comme ça, puis il faut l'accepter. Donc, faire son petit bout de chemin individuel là-dedans.
OK, parle-moi des centres commerciaux, parce que si, tu sais, il y a plusieurs modèles d'affaires là qui sont un peu chambranlants en ces temps de pandémie. Et là, les centres commerciaux, ça fait partie de ça.
On peut ouvrir le 1er juin ailleurs qu'à Montréal. On peut ouvrir dans les portes à Montréal extérieures, mais le centre commercial, avec sa promesse de flâner, faire du lèche-vitrine, de se désennuyer, de consommer passivement, de toucher, sentir et partager l'expérience. Parce que c'est ça, hein? Un centre commercial, c'est une mini-ville intérieure qui te promet une expérience. Et les loyers sont chers parce que le commerce a une garantie qu'il va y avoir du monde. Donc, en déconfinement, c'est file d'attente, minimisation des contacts, minimisation de l'expérience, limitation des croisements, des rencontres, des touchés. Le
dans un contexte qui était déjà difficile avant. Là.
Exact, avec le commerce en ligne qui s'est amplifié. Oui. Alors, dans le mix marketing, tu as le produit, le prix, la communication puis le moyen de distribution. Les trois premiers, ça va, tu fais une promesse d'un produit de qualité, tu mets un prix relativement élevé, tu fais une communication comme quoi c'est une cabine de luxe ou c'est un commerce de luxe, mais là, ton réseau de distribution qui était le centre commercial ne te donne plus la promesse qu'il te donnait. Alors la question, c'est est-ce que les fournisseurs de locaux commerciaux dans les centres commerciaux peuvent encore exiger de leurs locataires des loyers faramineux alors qu'ils n'offrent plus du tout la capacité de générer autant d'argent qu'avant et qu'en temps de COVID, ils sont les plus pénalisés? Donc, imagines-tu comment ça n'existe plus? Je sais pas, Patrick, c'est quoi ton rapport avec le centre commercial personnellement?
Hey, moi j'ai un rapport un petit peu romantique parce que j'ai travaillé au Carrefour Laval dans mes jeunes années.
Mais voyons donc, tu travaillais au Carrefour Laval comme moniteur à Laval.
Non, j'étais moniteur le jour, puis le soir, je faisais du pain à la petite boulange au Carrefour Laval.
OK. Ouais. Et quel était ton rapport avec le Carrefour Laval? C'était-tu pour toi une expérience grandiose?
Ben, à mon âge, ado, là, en 1988-9, là.
C'était cool, là.
Hein? Ben, non, mais c'était important, là. Je me rappelle quand ils ont agrandi le centre, le Carrefour Laval. Mon Dieu, on était sur la map, soudainement, là.
Mais avant, il est devenu sur la map.
Mais je t'avoue, dans les dernières années, là, aller au centre d'achat, c'est plus un aria que d'autre chose.
Mais toi, il faudrait que tu te mettes un masque de toute façon, de base, là, pour moins être reconnu. Mais en général, le problème, c'est qu'imagine, là, tu vas être en file dans le centre commercial,
oui.
Tu vas être le 20e en ligne, puis là, il y a un monsieur ou une madame qui va prendre son temps dedans. Là, ça va te créer de la frustration, parce que ça, c'est l'autre affaire. Le centre commercial te dit, prends ton temps, mon homme, profite de la vie, vis une expérience. Et là, on dit, grouille-toi, fais ça vite, il y a du monde qui attend. Donc, la promesse et puis là, la signature même de ce qu'on va chercher dans le flanage.
Et de pouvoir flâner, là, c'est ça. Là, ce sera plus là.
Tu sais, quand t'es ado puis tu fais du flanage, là, c'est du flanage à 2 mètres de distance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, puis même à une époque post-pandémique, de cette pandémie-ci, qu'est-ce qu'on va faire avec les prochaines pandémies? Donc, il faudra adopter des mesures qui vont durer tout le temps. Alors, c'est vraiment impressionnant de se dire qu'est-ce que sera le centre commercial? Et on est loin du Sears.
Mais Pierre-Yves, c'est quand je dis que même avant, c'était problématique. T'avais le problème du commerce en ligne, parfait. Après ça, les grosses chaînes, c'est comme si elles étaient moins à la mode. Tu nous en as parlé, l'Abbé a des problèmes récurrents. Sears a fait faillite. Target n'a pas fonctionné, etc. Et ça, ce sont les gros locataires des centres d'achat. Je veux dire, s'il n'y a pas ces grosses surfaces-là, on peut se demander ça va être quoi les centres d'achat.
Puis c'est les pôles, ce sont les pôles, tu as raison. L'autre point, c'est de dire, le consommateur a l'information pure et parfaite. Il est dans le centre commercial, il voit une bébelle à 89$, il va sur son téléphone cellulaire, ben écrit, mais t'as 69$ sur Internet, donc je vais l'essayer ici. Oui. Puis, donc, il y a ça aussi. Le centre commercial
devient... Je vais regarder c'est quoi ma taille en magasin, puis je vais le commander en ligne.
Ouais, donc, tu deviens un centre de coût pour les profits qui sont ailleurs.
Hey, merci, puis ouais, on se reparle demain. Et les accros s'en viennent, on va parler de télé, on va parler de tout le monde en parle. Patrick Huard et Marine Orsini.